Souvent, on parle, comme le titre de mon message, Noël, la naissance du petit Jésus, avec un point d'interrogation. C'est-tu vraiment la naissance du petit Jésus à Noël? Nous, on fête Noël le 25 décembre, d'autres vont le fêter le 8 janvier, il y en a d'autres qui ont une autre date. C'est pas vraiment le 25 décembre, j'espère que je surprends pas personne. Mais il est né un jour. Puis c'est la naissance qu'on veut célébrer, non pas le jour nécessairement du 25. C'est de penser que le mot Noël, premièrement, veut dire que c'est naissance, ça veut dire naissance. Mais c'est dans une autre langue, ça vient du latin, puis nous autres, on a de la misère à comprendre ça, ce mot-là, le vrai sens. On pourra dire la fête de la naissance, ça serait plus compréhensible. Mais on ne serait pas obligé de la mettre le 25, ça peut être n'importe quand dans l'année. Vous pouvez même fêter la naissance de Jésus tous les jours, si vous voulez. Pourquoi pas? On peut fêter Jésus tous les jours. Sa naissance comme sa mort, son œuvre qu'il a accomplie, ses promesses qu'il nous a données, son Saint-Esprit qu'il nous a envoyé. Tout est fêtable. On va le fêter, je suis sûr, dans l'éternité. On va se réjouir de ce que Jésus, ce que Dieu a fait dans ce monde pour nous. Mais aujourd'hui, on va quand même parler de l'histoire de la naissance de Jésus. Moi, je crois que c'est la plus belle de toutes les histoires. Si je vous raconterais la naissance de Daniel Poulain, peut-être ça vous intéressera pas bien. Ça sera pas un sujet nécessairement intéressant. Mais la naissance de Jésus, on a un intérêt, on a tous un intérêt de connaître ce qui s'est passé là, parce que Jésus, pour nous, c'est une personne importante. J'espère que j'avais réalisé, c'est la personne la plus importante qui devrait être la seule qu'on aime le plus dans notre vie, puis même de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. On doit aimer Jésus avant n'importe qui, n'importe quoi, même plus Jésus que même notre famille. C'est écrit. Quand on parle de la naissance de Jésus, on va aller lire certains textes dans Luc. Notre sœur nous a très bien récité tantôt. C'était super beau. Puis on veut la remercier de ce qu'elle a apporté. Trouvez-vous ça surprenant que quelqu'un peut dire un chapitre? Je suis sûr qu'elle en connaît d'autres, puis elle peut le dire en anglais. C'est déjà super qu'on puisse avoir des personnes qui mémorisent là. Dans Luc, au chapitre 2, versets 6 et 7, pour nous mettre dans le contexte, il y avait un recensement sur toute la terre. Puis là, Joseph, sa famille, il fallait qu'ils aillent se recenser, mais il n'y avait pas d'enfants encore. Fait qu'ils sont partis parce qu'ils étaient de la ville de Bethléem, vu que ses ancêtres, ils faisaient partie de la tribu de David, là, de la même tribu que David, puis il fallait qu'ils aillent faire le recensement dans la ville où ce que David il est né. Fait qu'il s'est en allé par là. Puis, sa femme est enceinte. Puis, rendu là-bas, il n'y avait pas de place pour eux pour qu'elle puisse coucher dans un motel à quelconque, puis était sur le bord d'accoucher. Dans Luc, chapitre 2, verset 6, « Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son premier-né, elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » Vu que c'était le recensement, il y avait beaucoup de monde qui s'était rendu dans cette ville-là, puis il n'y avait plus de place, personne. Fait qu'ils ont été dans le bord, dans le champ, puis ils ont trouvé une étable, une place où ce que les animaux allaient manger, allaient accoucher là, puis elle a emmailloté son enfant, puis elle l'a mis dans la crèche. Une crèche est une mangeoire pour les animaux, où ce qu'il y a de la paille. Puis là, quand on fête la naissance de Jésus à Noël, tout le monde se refait comme une petite crèche, pas tout le monde, mais beaucoup de monde se font une petite crèche avec l'enfant Jésus, puis Marie, Joseph, puis là on voit, tout dépendant des crèches, il y en a qui mettent les bergers, puis qui étaient des éleveurs de moutons, qui étaient dans ce territoire-là, mais il y en a d'autres qui vont mettre les rois mages, mais les rois mages n'ont pas rapport avec ce moment-là. Puis tout le monde aujourd'hui, tu parles de Jésus, tout de suite le monde parle du petit Jésus dans la crèche. On a appris dans notre culture catholique que le petit Jésus dans la crèche, tout le monde le met dans la crèche. Ça ne veut pas dire nécessairement que le monde croit en ce Jésus-là, mais il croit que ça a un rapport avec la journée de Noël qui est le sapin puis le Père Noël. Aujourd'hui, les gens sont mêlés. Ils ne se rendent pas compte que l'industrie des commerces, aujourd'hui, vend beaucoup de matériel, des belles décorations, un beau sapin, puis des décorations qui vont en dessous. Mais on vend une crèche avec un petit Jésus. La question qu'on se pose, est-ce qu'il y a eu vraiment un Jésus, quelqu'un qui s'appelle Jésus qui est venu au monde dans une crèche? Oui. Il est venu, voilà, 2000 ans, c'est un fait historique. Même aujourd'hui, on dit qu'on est allé en 2021, mais c'est basé d'après la date de la naissance de Jésus. Ça fait partie de notre calendrier, ça fait partie de notre culture, parce que la religion catholique a quand même annoncé, parlé de Jésus. En théorie, tout le monde aura dû lire la Bible et connaître le récit de l'histoire de Jésus. Mais c'est ça, on est aujourd'hui à l'an de grâce 2021 qui a rapport à la naissance de Jésus, la date. On est après Jésus-Christ. Puis il y a eu des dates calculées avant Jésus-Christ. Jésus est réellement venu. Puis il a réellement été un moment où ce qui était le petit Jésus dans une crèche. Fait que c'est pas quelque chose de faux. C'est juste qu'on va voir aujourd'hui en regardant des passages que Jésus n'est pas resté petit. Il n'a pas resté le petit Jésus toute sa vie. On va continuer l'histoire, c'est le fun de regarder les passages. Suite à sa naissance, là, il y a plusieurs événements miraculeux qui se sont produits. On va voir que ce n'était pas un enfant comme les autres. Moi, quand je suis venu au monde, il n'y a pas eu grand effet spéciaux dans la vie. Il n'y a pas eu d'ange qui est apparu, il n'y a pas eu de tremblement de terre, il n'y a pas eu grand-chose. Puis je suis sûr qu'à chacun de vous aussi, il ne s'est pas passé de choses extraordinaires. Mais à Jésus, oui. Il s'est passé des actes surnaturels, des choses qui ne se voient pas naturellement. Puis en plus, c'est annoncé d'avance dans l'Ancien Testament, dans la parole de Dieu, qu'il viendrait un Messie. Mais les événements qui se sont produits ont quand même été étonnants. Tout le monde qui a été témoin de cela était touché par ce qui s'est produit. Il y avait les bergers dans le champ. On voit ça dans Luc au chapitre 2, versets 8 et 9. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, puis ils furent saisis d'une grande frayeur. C'est ça que ça fait comme effet. Ils sont saisis d'une grande frayeur. Les gens, ils ont sûrement crié. Hey, tu vois un ange apparaître, puis la gloire du Seigneur, la lumière de Jésus, on en a déjà parlé, son visage rayonne comme le soleil dans sa force. Il était la nuit, il est venu tout éclairé partout par la gloire de ces anges-là qui sont apparus. C'est extraordinaire. Puis là, les anges, l'ange en particulier, celui qui parlait, a annoncé quelque chose, que l'enfant qui venait de naître, c'était beaucoup plus qu'un simple enfant. C'est le Sauveur, puis c'est le Seigneur de cette vie qui venait de naître au monde. Dans Luc chapitre 2, verset 10 à 12, ça dit, « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Il nous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur, le oint de Dieu. Le Christ, ça veut dire le oint, parce que c'était annoncé qu'il viendrait un oint. L'Esprit du Seigneur sera sur lui parce qu'il a été oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, puis de guérir, puis de délivrer, puis de manifester sa puissance. Mais il venait de dire qu'il est né. Et voici en quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, puis couché dans une crèche. Il leur a donné un signe. Puis il leur a dit le message. Puis là, les bergers étaient libres de faire du message ce qu'ils pouvaient faire. Soit de dire, ben voyons donc. Ou ben dire, ouais, hey, qu'est-ce qu'on va? On va-tu voir, c'est où? Puis on va le chercher. C'est ce qu'ils ont fait. Mais la manifestation surnaturelle n'a pas resté de même. Ça nous dit que tout d'un coup, il y a une multitude d'anges qui sont apparus puis qui se sont mis à louer Jésus, à louer Dieu pour cette naissance-là. On voit ça dans la suite, au verset 13 et 14. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu, puis disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » On voit que l'effet spéciaux était bien plus grand qu'on pense, parce qu'il y a là un message. Oui, il y a une louange à Dieu, dans les lieux très hauts, mais il y a un message pour ceux que Dieu agrée. Agrée, ça veut dire que Dieu trouve agréable. Savez-vous de quelle façon que Dieu trouve une personne agréable? Qu'est-ce qui est arrivé à Abraham qui plut à Dieu? Parce qu'il marchait par la foi. Dieu, il trouve les gens qui marchent par la foi agréable, puis la bonne nouvelle du message de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus est pour nous, pour ceux qui marchent par la foi. C'est un message pour nous. Jésus nous a été donné pour être notre bonne nouvelle à nous qui croyons aujourd'hui. Les bergers sont allés à Bethléem pour vérifier parole de l'ange de Dieu. Dans Luc au chapitre 2, verset 15 et 16, ça nous dit, « Lorsque les anges eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Là, ils allèrent en hâte, puis ils trouvèrent Marie, Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Comme l'ange lui avait annoncé, comme signe, il dit, vous verrez un petit enfant emmailloté puis couché dans une crèche. Ils l'ont trouvé comme Dieu leur avait annoncé. On voit vraiment comment Dieu fonctionne. Il annonce des prophéties précises, puis il les exécute comme qu'il les a annoncées. C'est ce qui est arrivé. Ils ont cru, puis ils ont trouvé la réponse de ce qu'ils ont recherché. C'est un peu ça aussi que Dieu nous demande à nous qui croyons, de chercher à comprendre les prophéties, puis à comprendre c'est quoi le message de Dieu, puis on va trouver les réponses que Dieu a pour chacun de nous, dans tous les sujets, pas juste pour la naissance de Jésus. Dieu veut se révéler, puis il va se révéler, puis il va donner ses preuves à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Amen. Ils ont trouvé l'enfant, puis ils ont raconté tout ce qu'ils avaient entendu de la part de l'ange. Dans Luc, au chapitre 2, verset 17 à 20, ça dit, « Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qu'il avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. » Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant Dieu, puis louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, ce qui était conforme à ce qui lui avait été annoncé. On voit là-dedans que non seulement tout s'était accompli, mais les gens qui ont entendu se sont réjouis de ces paroles-là. Mais il faut dire aussi que Marie n'était pas à sa première expérience, parce qu'elle aussi, un ange lui avait apparu, puis il lui avait annoncé qu'elle tombera enceinte sans que Joseph intervienne, puis que ça serait un enfant qui vient du Saint-Esprit, que la main de Dieu sera sur elle, puis elle tombera enceinte. Puis cet enfant-là était consciente qu'elle n'a rien fait, puis elle est tombée enceinte toute seule par la puissance de Dieu. Puis là, elle se fait confirmer ça par les bergers qui lui ont annoncé que cet enfant-là, c'était le Christ, et le Seigneur, c'était pas n'importe qui, c'est Adonai, le Dieu de l'Ancien Testament. C'est lui qui vient de naître. On parle de Dieu pour accomplir certaines prophéties. Si la Bible, elle dit, ces paroles de l'ange, c'est l'accomplissement de plusieurs prophéties qui viennent de Dieu. Dans Matthieu 1, 23, ça avait été dit que la Vierge deviendra enceinte. C'était écrit dans l'Ancien Testament. Que la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, puis on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est le Seigneur. Puis encore, dans Isaïe 9, 6, ça nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules, puis on l'appellera admirable, conseiller, ça c'est consolateur, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Tous les noms qu'on attribue à Dieu le Père ont été pour les donner à l'enfant qui vient de nous être donné. C'est à l'accomplissement de très grandes prophéties. Puis les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé ces choses sans savoir vraiment ce qui arriverait, mais Dieu les a accomplis en son temps. C'était le temps de Dieu pour l'accomplissement de ces promesses-là, puis envoyer son Fils, qui est Dieu, en forme humaine, comme un simple enfant, pour accomplir les prophéties. Parce que c'était le commencement de certaines prophéties, parce qu'il y a eu d'autres prophéties dans la vie de Jésus, dans sa mort, puis après, pour le salut qui sera répandu à travers les nations. La Bible dit que le Seigneur Jésus est appelé aussi, dans la parole, la parole. Il est appelé dans la Bible la parole, Jésus. Puis ça nous dit que c'est le Créateur de tout, du ciel et de la terre. On voit ça dans Jean au chapitre 1, le verset de 1 à 3. Ça nous dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, puis rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Au verset 14, ça dit que la parole a été faite chair. On parle de celui qui a créé toutes choses, qui est faite chair dans un petit enfant, puis qui était là devant, sans défense. Il était là dans les mains de ses parents. Ils ont pris soin de Dieu pour l'élever, pour l'emmener à grandir, puis de l'éduquer. Mais Dieu aussi lui parlait, c'est sûr, parce que ça nous dit dans un autre passage, avant même qu'il ait l'âge d'arrêter de têter, qu'il était déjà comme en train de commencer de connaître le bien et le mal, puis de rejeter le mal dans sa vie. Il était spécial, c'était Dieu dans un corps humain. C'est extraordinaire. Tout ça pour vous dire que oui, c'est vrai qu'il y a eu un petit Jésus, mais c'était pas juste un petit Jésus. C'était Dieu fait homme qui a commencé à naître, qui est né, puis qui a continué à grandir dans ce monde. Il a vécu sa vie, il a accompli plein de prophéties. J'ai une série de prophéties qui s'est accomplie de l'Ancien Testament. Là, écrit, il y en a au moins 50 prophéties qui sont accomplies de l'Ancien Testament dans l'histoire de Jésus, puis autour de tout cela. Puis, après ça, il est mort. Mais il n'est pas resté dans la mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Puis, il vit au siècle des siècles. Puis là, il y a des attributs qui lui ont été remis, des titres, puis aussi des pouvoirs, des capacités, des choses qu'il avait laissées quand il est venu en forme humaine. Ça nous dit que suite après sa mort et sa résurrection, il est apparu à ses disciples, puis il a déclaré lui-même que tout pouvoir lui avait été remis dans le ciel et sur la terre. Dans Matthieu 28, les versets 16 à 18, ça dit, « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. » Là, quand Jésus était mort, puis qu'il était tout après, il est ressuscité. Là, quand ils le virent, parce que là, ils ont vu Jésus ressuscité, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus était devenu, redevenu, le Tout-Puissant. C'est ça le nom, un des noms que dans Isaïe, qu'il était donné. Un fils nous a dit, il sera appelé admirable, conseiller, Dieu puissant. Jésus est redevenu le Tout-Puissant après sa résurrection. On parlait au début du petit Jésus, il n'est plus le petit Jésus. Il est mort à l'âge adulte, il est ressuscité, puis maintenant il a retrouvé sa toute puissance qu'il avait, parce que c'est lui qui a créé toute chose, dans le ciel et sur la terre. Il a retrouvé aussi dans d'autres passages la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il est l'omniprésent, le Tout-Puissant, il est éternel. Puis il sait tout, il voit tout, il entend tout, il est présent, il est avec ses disciples, il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est l'omniprésence, en même temps on voit qu'il sait tout sur nous, il est toujours là, dans nos bons et nos mauvais jours. La Bible explique que le Seigneur Jésus devait naître en simple homme. Il devait venir au monde comme un petit bébé. C'était biblique. Dans Philippiens 2, c'est bien expliqué à partir du verset 5. Ça nous dit d'avoir les mêmes sentiments qu'étant Jésus. Au verset 6, ça dit, « Lequel, existant en forme de Dieu, Jésus existant en forme de Dieu, mais il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant comme un simple homme. Il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Jésus avait accepté son humiliation, son rabaissement, de devenir comme l'un d'entre nous, comme un petit bébé, puis il a grandi comme les autres, puis il a vécu comme une faible créature, que ça nous dit même dans Isaïe 53. C'était pas un Jésus avec des muscles gros de même, puis capable de planter tout le monde. C'était une faible plante. C'est vrai, on s'imagine toujours un super-héros. Jésus a décidé de venir comme un simple homme, comme un serviteur. Tu le regardes, puis c'est celui que tu te détournes le visage parce qu'il a de l'air d'un gars pas important.
Il n'y avait aucune beauté qui attirait le regard.
C'est ça. Il n'y avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Il était rejeté, c'était un homme de douleur, puis il était rejeté par tout le monde. C'était le genre du pire que vous pouvez imaginer, du gars qui se fait abattre par tout le monde dans la classe. C'est un peu ça l'idée. C'est vrai qu'il est venu comme un petit, mais il n'est pas resté petit, parce qu'il est ressuscité. Puis là, c'est écrit que Dieu le ressusciterait, puis qu'il deviendrait la personne la plus élevée du ciel et de la terre. Dans Philippiens, dans le même passage, mais à partir du verset 9, ça dit, « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, puis il a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sous la terre, sur la terre et sous la terre. Tout genou va fléchir à ses pieds. Il est le Tout-Puissant, puis il a l'autorité suprême, puis tous vont fléchir, le diable, les démons aussi, les humains rebelles aussi. Tous vont fléchir le genou devant le Seigneur, puis vont dire de leur bouche que Jésus est le Seigneur. En cette journée, le Seigneur de la vie est né, puis il est appelé le Sauveur, le Seigneur. C'est ça que ça disait dans le passage au début. Au début, ça disait qu'aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il a accepté de venir en forme humaine, puis il s'est offert en sacrifice pour nous racheter. Mais après ça, Dieu l'a élevé dans la position qu'il avait avant de venir en forme de Dieu. Jésus, je vous finis avec un dernier passage, il n'est plus le petit Jésus. Il est maintenant le roi des rois, puis le Seigneur des seigneurs. Un jour, il reviendra sur la terre, mais en vainqueur, puis il va juger les habitants de la terre. La dernière image qu'on a de tout là, c'est dans l'Apocalypse au chapitre 19, à partir du verset 11. Dans la vision de l'Apocalypse, ça dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Puis il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Puis il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Des armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, puis les pètera qu'une verge de fer, puis foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Puis il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Là, on parle de la vraie position de Jésus. Si on vous dit, oui, tu connais-tu le petit Jésus? Non, il n'est plus petit Jésus. Il était petit, juste quand il était petit. Il a grandi, il est mort, ressuscité, puis il est maintenant l'être le plus élevé du ciel et de la terre. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Puis un jour, c'est lui qui a été destiné, il sera envoyé pour juger la terre, puis régner avec une verge de fer. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour les révélations de ta parole qui nous enseigne comment ce que tu es aujourd'hui. Tu nous révèles dans ta parole ce que tu es dans ta présence, dans ta puissance, dans ton autorité, dans ton étendue, dans ce que tu peux faire puis ce que tu feras dans la suite, Seigneur. Merci de nous montrer que tu n'es plus le petit Jésus, mais que tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Grave ces choses dans nos cœurs pour qu'on puisse tout avoir dans notre esprit, de te voir comme tu es vraiment aujourd'hui, dans toute ta grandeur, ta splendeur. Je te remercie pour tes paroles, puis je te rends grâce pour tout, dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.